Bonjour Thierry Garcin.
Et bonjour Émilie Chaudet.
À 6h45, dans les titres de la presse tout à l'heure, il n'y en avait que pour le ministre de l'économie démissionnaire Emmanuel Macron, mais c'est oublié que Le Monde, paru avant la démission du ministre, titre aujourd'hui sur la division du gouvernement britannique, et c'est justement le sujet des enjeux internationaux, Thierry Garcin.
Voilà, avec notre invité Agnès-Alexandre Collier, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes professeur de civilisation britannique à l'université de Bourgogne. Nous sommes à peu près deux mois après le référendum sur le Brexit. Alors, ce sont des partis politiques chahutés. Londres n'a pas encore officialisé sa demande de retrait à Bruxelles. Vous allez nous dire s'il faut un vote du Parlement. Je n'ai rien compris à cela parce que j'ai lu un article d'ailleurs très intéressant de Active hier sur cette question et je n'y vois pas très clair. Alors, le résultat avait été franc, près de 52% des voix lors du référendum. Alors, ce résultat a semblé prendre de court les partisans du Brexit eux-mêmes. On comprend que les deux grands partis en aient été bousculés. Le Premier ministre conservateur a perdu son pari et le Parti travailliste n'avait soutenu le maintien dans l'Union européenne qu'à mi-voix. Et l'UKIP, évidemment, a gagné mais a perdu son objet dans l'instant. Alors, vous allez me dire, d'ailleurs, il y a une actualité à tout cela aussi, c'est que bientôt il y aura deux congrès.
Oui, tout à fait, oui, oui. Alors, depuis le référendum, l'activité est quand même un petit peu, on va dire, ralentie, puisque le Parlement n'a pas encore repris ses travaux, hein. Il le fera le 5 septembre, et c'est vrai qu'à partir de là, les choses vont reprendre de manière très précipitée, puisqu'on va avoir donc l'élection du leader travailliste à la fin du mois de septembre, celle du UKIP aussi à la mi-septembre, et puis les congrès de parti, comme vous l'avez signalé, début octobre. Donc la période va être relativement chargée, ce qui va permettre effectivement de relancer la machine.
Alors, il y a une chose qui est tout à fait frappante, en tout cas pour un esprit rationnel français, c'est que on éprouve une impression de grande improvisation finalement. Alors, c'est un peuple anglais ou britannique qui est célèbre et célébré pour son pragmatisme à juste titre. Oui. Mais alors là, on est quand même un petit peu effaré par l'amateurisme finalement des dirigeants politiques.
Tout à fait. Alors, vous parlez d'amateurisme, ça se voit tout particulièrement au sein du UKIP. On aura peut-être l'occasion d'en parler, puisque actuellement il y a toute un débat autour de l'élection du futur leader, parce que Nigel Farage a démissionné. Il reste 5 candidats en lice, dont 2 ont laissé passer la date limite de nomination, l'un a dû démissionner. Donc là, on a vraiment l'exemple flagrant de l'amateurisme et le sentiment finalement que le UKIP ne va peut-être pas pouvoir durer très longtemps. Ça, on aura l'occasion d'en parler. Mais du point de vue du gouvernement, c'est vrai que pour l'instant, on peut avoir peut-être un point de vue un peu plus positif que le vôtre et dire que le gouvernement est pour l'instant dans l'expectative. Ce qui se passe depuis 2 mois, c'est qu'il recrute là actuellement massivement du personnel qualifié pour d'experts, de négociateurs, de juristes, pour essayer d'y voir plus clair. Mais le point négatif, c'est bien sûr un énorme clivage, un débat autour de la procédure à mettre en place, voilà. Puisque pour l'instant on voit se dessiner, disons, 3 groupes d'attitudes autour de la procédure. Celle du gouvernement qui est une attitude un peu soft, on pourrait dire, qui veut prendre le temps de la négociation et surtout qui veut prendre le temps de négocier un partenariat commercial avec ses partenaires européens avant d'engager le fameux article 50 qui limite à 2 ans ensuite le retrait effectif. Il y a les hard, en quelque sorte, du Parti conservateur qui souhaitent activer l'article 50 dès janvier 2017. Et puis, il y a ceux qui pensent que, de toute façon, le Brexit proprement dit va durer 10 ans et ne se fera peut-être pas. On a vu un article dans la presse d'un grand journaliste britannique qui émet l'hypothèse que le Brexit n'aura peut-être pas lieu. Donc on voit que effectivement pour l'instant les choses sont un peu floues, ce qui donne cette apparence, comme vous le disiez, d'une sorte d'amateurisme.
Je voyais hier Madame Theresa May, la nouvelle première ministre, demander un plan d'action, c'est son expression, en tout cas en français, un plan d'action pour la sortie. Alors on se dit que c'est bien le moment de réfléchir.
Oui, tout à fait. C'est c'est le cas. On imagine quand même, comme je vous l'ai dit, qu'à partir du 5 septembre, les choses vont reprendre. Mais c'est vrai que la difficulté, c'est déjà d'essayer de trouver un consensus au sein de la vie politique sur la procédure à mettre en place. Vous le disiez, il y a toutes sortes de débats au sein des partis, au sein de la vie politique. Il y a bien sûr la question de la procédure que je viens d'évoquer, et puis il y a des questions de fond qui ne sont toujours pas réglées, celle de la légitimité à apporter au résultat du référendum, comme vous disiez très justement. Ça, c'est vraiment un débat de fond qui semble plomber un peu le gouvernement, puisque, si vous voulez, il y a encore une fois deux attitudes sur la question. Ceux qui considèrent que la décision populaire doit être entérinée immédiatement sans le vote du Parlement, et ceux qui estiment au contraire qu'en vertu de la constitution non écrite du Royaume-Uni et donc du principe de souveraineté parlementaire, un vote au Parlement est obligatoire. Et là, c'est amusant parce qu'on voit bien tout le paradoxe finalement de ce référendum autour du Brexit, puisque ce sont les eurosceptiques qui ont défendu le Brexit au motif que la souveraineté parlementaire de Westminster primait sur le reste, qui aujourd'hui estime que la décision du référendum peut être entérinée immédiatement sans le vote du Parlement.
Oui, mais alors si on dit maintenant que le référendum était consultatif, c'est tricher, parce que M. Cameron s'était engagé à respecter les voix des électeurs dans un sens ou dans l'autre.
Oui, tout à fait. C'est toute la difficulté. Donc, on imagine, si vous voulez, que les députés, s'il y a vote du Parlement, iront dans le sens de ce qui a été voté par le peuple. Voilà, c'est encore un problème qui n'est pas réglé et qui, j'espère, le sera très bientôt.
Alors, les travaillistes sont très divisés. Les conservateurs sont maris, on va dire, et que tu disais d'ailleurs aussi. Et puis, il y a ce UKIP qui a emporté l'affaire, mais qui, évidemment, encore une fois, a perdu son objet de combat.
Qui a perdu son objet, qui semble avoir aussi quand même un petit peu perdu son identité partisane, parce que là, l'élection semble vraiment être un véritable chaos. Et puis Nigel Farage, qui a l'air de continuer son chemin tout seul, on l'a vu aux côtés de Donald Trump pendant l'été. Donc il a démissionné du parti, mais n'a peut-être pas forcément quitté la vie politique. Peut-être a-t-il des ambitions nationales plus importantes que celle de présider un parti simplement eurosceptique qui n'a plus lieu d'être. On peut imaginer qu'il reviendra.
Juste d'un mot, parce qu'on arrive au terme de l'émission. Oui. Agnès Alexandre Collier, je rappelle, vous êtes professeur de civilisation britannique à l'université de Bourgogne, et ça remet en cause à terme, hein, d'ici 5 ans, 10 ans, etc., la fameuse alternance pendulaire entre les conservateurs et les travaillistes, qui est un grand classique de la vie et du système politique britannique.
Oui, alors ça c'est une hypothèse qu'on émet depuis pas mal de temps, depuis les élections de 2010, hein, avec justement ce Parlement sans majorité. Moi je crois quand même à une certaine stabilité qui perdure, je crois à une certaine, on va dire, ce pragmatisme qui semble revenir de manière très régulière. Mais c'est vrai que le Parti travailliste est dans une situation extrêmement critique, et ce qui risque de poser problème par rapport à son identité d'opposant parlementaire vis-à-vis du gouvernement conservateur. C'est plutôt l'enjeu et l'avenir du Parti travailliste qui m'inquiéterait dans l'immédiat.
Voilà, on aura le temps de revenir évidemment dans les mois suivants sur toutes ces questions à la fois compliquées et en suspens. Merci beaucoup Agnès Alexandre Collier. Pour vous écouter, vous téléchargez donc, et merci à nos amis auditeurs d'y procéder, donc franceculture.fr, et également demain, donc le titre, on parlera de la Colombie avec les promesses et les aléas de l'accord de paix avec les FARC, et notre invité sera Daniel Pecot, École des hautes études en sciences sociales.
Merci Thierry Garçon. Voilà, on vous retrouve donc demain.